La question est devenue récurrente, omniprésente, presque systématique après chaque scrutin ces derniers mois. Qu'il s'agisse du vote des Britanniques en faveur du Brexit, du vote américain pour Donald Trump ou bien celui des Français de droite pour François Fillon. Même interrogation à l'annonce des résultats, mais pourquoi ne l'a-t-on pas vu venir ? Autrement dit, serions-nous passés à côté de revendications, d'aspirations, mais aussi de colère d'une partie de la population ? Alors bien entendu, chacun de ces scrutins relève d'un contexte national, spécifique, mais peut-être ont-ils un point commun, celui de révéler une société coupée en deux, avec d'un côté ce que l'on a nommé spontanément l'élite médiatique, politique, intellectuelle, et de l'autre, le peuple, et peut-être plus précisément, les laissés pour compte, les déclassés, alors élite et peuple, donc, qui ne vivraient pas dans la même réalité, qui seraient déconnectés. Le terme s'est imposé dans le débat public pour dénoncer une classe dirigeante tout à la fois aveugle et responsable de la situation. Alors pourquoi ne voit-on plus rien venir ? La question était justement le fil rouge d'une semaine spéciale. Du grain à moudre qui s'achève aujourd'hui, il a été question du lundi au jeudi des élites, des médias, des corps intermédiaires, syndicats, associations, partis, et enfin des écrivains, à une semaine pour comprendre ce qui dysfonctionne dans nos habituels relais d'opinion. Et ce soir, avec le Club des idées, nous allons revenir sur les moments forts de cette semaine, en son, mais surtout en débat, avec notamment deux membres du club. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant, et puis je signale que vous aviez publié, alors c'était il y a un petit moment déjà, en 2002, La vengeance du peuple, les élites, Le Pen et les Français, c'était aux éditions Plon. Je ne sais pas si l'ouvrage est encore disponible en librairie, en tout cas j'imagine qu'on y trouve peut-être des enseignements précieux sur la question qu'on va poser ce soir.
Oui, il y avait un des éléments qui m'avait frappé pour expliquer le vote Le Pen à l'époque, c'était effectivement que les gens ne votaient pas seulement comme on aurait souhaité qu'ils ne votent pas malgré les objurgations, mais parce qu'on leur disait de ne pas le faire. Et ça me semble rester une clé de lecture assez intéressante.
À vos côtés pour discuter, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes politologue et enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris. Et puis, nous sommes en compagnie ce soir de Guillaume Goubert. Bonsoir.
Bonsoir, Mélanie.
Vous êtes directeur du journal La Croix, le journal La Croix qui nous a accompagnés toute cette semaine. Vous étiez d'ailleurs lundi aux côtés d'Hervé Gardette pour co-animer l'émission qui était consacrée à la question des élites.
Il y a eu un mécanisme sur les dernières décennies qui a placé un certain nombre de médias dans une posture de pouvoir. Et donc, ça conduit presque automatiquement, parfois, à se déconnecter un peu d'un certain réel. Mais ça n'est pas vrai de tous les médias et ça n'est pas vrai de tous les journalistes.
Cette semaine, j'étais dans la cafette au boulot, puis je discutais politique avec des collègues. Et puis, il y en a un qui me sort ça. Moi, j'aime bien Fillon parce qu'il adore le sport automobile. Enfin, où est-ce que je vais entendre ça si ce n'est au taf ?
La principale raison de la crise de confiance qui ne fait que s'accroître à l'égard des journalistes, des médias et de l'information ne vient pas des journalistes, des médias ou de l'information. La principale cause, c'est la crise économique, sociale, culturelle que traversent des pays comme le nôtre et qui font que les gens se méfient de tout.
Thomas Piketty, Rosan Vallon, Bourdieu, ils ont vu venir la misère du monde. Thomas Piketty a vu venir les inégalités sociales dans son bouquin. Rosan Vallon a vu venir la crise de la démocratie représentative. Quelles sont, parmi les élites qui nous gouvernent, économiques, financières, administratives, politiques, est-ce qu'ils ont été écoutés ? Non.
Les élites, elles ont des valeurs et des savoir-faire, mais elles ont aussi des intérêts. Et en général, quand elles doivent agir au moment où elles doivent décider, bah, dans la balance, il y a d'un côté leurs intérêts et de l'autre côté leurs valeurs et leurs compétences. C'est pour ça que le problème, il est structurel et que quand on est démocrate, on veut tout simplement confier le pouvoir au peuple.
Moins d'État, c'est aussi une société civile qui prend davantage part à la mise en œuvre du bien commun, puisque c'est de ça dont on parle. Il n'y a plus de monopole de l'intérêt général et du bien commun.
Les corps intermédiaires sont indispensables, ils sont insatisfaisants. Et pour essayer de combler les manques des corps intermédiaires, il ne reste qu'une possibilité, il faut s'y engager.
Alors voilà, la petite session de rattrapage en son des débats de la semaine. Il s'agit bien sûr d'une sélection qu'on a établie avec notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Vous avez pu entendre dans l'ordre Jean-Marc Four, Nicolas Mathieu, Pascal Aubert, Dominique Rousseau, Manuel Cervera-Marsal, Nathalie Loiseau et Cindy Léonie. Alors j'avais envie de commencer ce tour de table. Peut-être vous êtes tous trois chercheurs, journalistes, consultants, anciens journalistes pour vous, Philippe Manière également. Est-ce que vous vous sentez visé par cette accusation ? de... est-ce que vous vous sentez faire partie de l'élite, peut-être? Est-ce que vous sentez visé par l'accusation d'être déconnecté? Je précise que je m'inclus évidemment dans la discussion. Qui veut commencer?
Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que dire on n'a rien vu venir, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a des choses qu'on a, beaucoup de choses qu'on a vu venir. Je veux dire, dans toutes nos professions, il y a des personnes qui vont à la rencontre de la réalité et qui en rendent compte. La question, c'est de savoir pourquoi elles ne, il y a une sorte de plafond de verre, pour employer un mot qui vient souvent à propos de d'autres sujets. Il y a une sorte de plafond de verre qui fait que ça n'arrive pas à s'articuler avec une action politique derrière, une action de la collectivité pour répondre à ces questions. Mais on peut pas dire qu'on voit rien venir. Bon, il y a des effets de surprise, on en a encore eu un il y a quelques heures. Mais au passage, je m'en réjouis. Je veux dire, je trouve que faire du journalisme, c'est plus intéressant quand il y a des surprises que quand il n'y en a pas. Donc, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais voilà, non, je récuse un peu l'idée qu'on a rien vu venir. Ça me paraît pas exact.
Philippe Manière, vous êtes d'accord avec l'idée qu'on exagère un petit peu quand on dit qu'on a rien vu venir?
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir, mais ce qui est le fait générateur de cette réflexion, c'est ces trois dernières élections, une primaire en France qui n'a d'intérêt que pour la France, mais surtout le vote Brexit, le vote Trump, que probablement on n'a pas vu venir, c'est incontestable. Maintenant, est-ce qu'on pouvait le voir venir? Je veux dire, on peut être coupable s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait et auquel on n'a pas accédé alors que c'était accessible. Moi, je pense que une partie du trouble vient de ce que beaucoup de choses sont devenues inaccessibles parce que la manière dont les esprits, les nôtres et ceux de tout le monde se forment est complètement différente. Moi, ce qui me frappe quand même, il me semble qu'il y a un élément à verser au débat, c'est que il y a une surinformation, on vit dans un univers de surinformation qui est dans le fond assez asymétrique. Ce qui est vrai, c'est que, pour faire simple, parce qu'évidemment c'est totalement caricatural, mais ça correspond je crois à un ressenti. Grâce à l'internet, grâce à la télévision, grâce à tout ce qu'on veut, les pauvres, entre guillemets, ont aujourd'hui une connaissance bien plus fine de ce que font et de ce que sont les riches qu'il y a seulement 10 ou 15 ans. Il y a des journaux People, des spéciales riches ici et là. Un exemple qui me frappe beaucoup, le salaire des patrons. Il a toujours été bien supérieur à celui des non-patrons. Mais avant, c'était pas public. Maintenant, c'est public, parce que la loi y oblige. C'est assez amusant d'ailleurs, c'est un progrès, me semble-t-il, au titre de la transparence et même de la démocratie. Eh bien, ce sont des sujets qui sont devenus des sujets de ressentiment, alors qu'avant, c'était des objets d'ignorance. Donc vous avez, de la part des gens qui n'appartiennent pas aux élites, une connaissance bien plus intense de la manière dont vivent les élites, qui sont potentiellement objets de ressentiment, alors que ça n'est pas symétrique. C'est-à-dire que les riches n'ont pas une connaissance meilleure qu'auparavant de la manière dont vivent ceux qui ne sont pas riches ou ceux qui n'appartiennent pas aux élites. Et donc, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut sûrement faire mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une part de fatalité? Je crains qu'il ne faille répondre oui, malgré tout.
Anastasia, fatalité ou bien est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose dans la manière dont on a, et la recherche notamment, d'avoir des capteurs, de sonder quelles sont les tensions, les débats, les revendications qui agitent la société?
Je dirais que, en fait, pour commencer, je dirais qu'il y a un problème, si on essaie de trouver un peu une origine à tout ce qui nous arrive en ce moment, à tout ce qu'on n'a pas prévu et qui est en train de se passer, je dirais qu'on est rentré aussi dans une phase de l'histoire qui est particulière. Et je pense qu'elle est particulière parce que on est aussi dans un moment de décroissance, alors j'ai envie de dire de décroissance économique, mais aussi de décroissance dans tous nos idéaux idéologiques. Je pense que la mondialisation heureuse qui avait été promise, s'est avérée être une mondialisation heureuse pour, effectivement, une certaine élite, et surtout une élite mondiale. Donc, en plus, avec cette impression, alors là, Philippe vous rejoint tout à fait, avec cette impression que tout d'un coup, avant, il y avait à gérer l'élite de son pays, mais alors maintenant, cette élite, elle est hyper connectée, elle est complètement au-dessus et complètement inaccessible. Et en plus, donc, avec l'idée que cette mondialisation était heureuse pour certains et pour les autres, elle n'était pas neutre, elle était très malheureuse. Et donc, l'impression qu'il y a eu pour le peuple, alors c'est un vaste concept, mais quand même, pour le peuple, d'un décrochage total, en fait. Et je trouve que c'est particulièrement marqué dans tous ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui, dans le fait que les gens, effectivement, comme vous le disiez Philippe, essaye de faire mentir les sondages aussi, parce qu'il y a un ras-le-bol telle d'une espèce d'impression de connivence entre les élites politiques, les élites médiatiques, les élites économiques, que tout d'un coup, il y a un peuple qui est en colère. Et moi, ce que je perçois, c'est en fait aussi beaucoup de colère. Est-ce que les Anglais voulaient vraiment le Brexit? Je sais pas. Est-ce que les Américains voulaient vraiment Trump? Je sais pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que tous, parmi les gens qui sont allés voter, il y avait aussi beaucoup de gens, et je pense que parmi aussi les électeurs du Front National en France, il y a beaucoup de gens qui disent « on en a marre qu'on nous dicte les choses, qu'on nous explique comment il faut être, qu'on nous explique qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on ne doit pas penser », et que c'est ça qu'il s'agit de prendre en compte maintenant de manière extrêmement sérieuse.
Une colère sur le fonctionnement de notre société plus que des revendications très précises, très marquées. Guillaume Goubert.
Moi, je voudrais exprimer un point d'accord et un point de désaccord avec Philippe sur les rémunérations patronales. Je pense que quand il dit que la visibilité de la richesse est une des sources du ressentiment, je suis profondément d'accord avec lui. Je pense que ça change énormément de choses. Sur le salaire des patrons, les salaires d'hier étaient moins visibles, mais ils étaient aussi moins élevés, nettement moins élevés. Il y avait une vraie continuité entre les plus bas et les plus hauts salaires dans une entreprise. Et aujourd'hui, il y a une vraie coupure entre la grande plupart des salariés et une catégorie de managers dont les modes de rémunération font qu'aujourd'hui, ils sont pas du côté des salariés, mais du côté des actionnaires. Et ça change vraiment quelque chose. Et je veux juste conclure en disant que ça illustre, et ça pourrait se voir dans d'autres domaines, une société où il y a aujourd'hui des compartiments, des coupures assez marquées et de fait très visibles.
Philippe Manière.
Je ne suis pas en désaccord avec ce point de désaccord. D'ailleurs, je n'avais pas dit que les patrons étaient convenablement payés, etc. Non, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Moi, je voudrais quand même rebondir sur un point qu'on a évoqué, sur la prise de conscience. Est-ce que les élites font bien leur boulot, etc. Parfois, on voit bien qu'il y a un problème, mais ce n'est pas pour autant qu'on a la solution. Par exemple, moi, il me semble que ça fait assez longtemps que beaucoup d'entre nous voient bien que la démocratie représentative n'apporte plus les satisfactions qu'elle apportait. C'est peu contestable. Les gens ne se sentent plus représentés, les gens ont le sentiment que leurs représentants les trahissent, les gens ont le sentiment que ce vote par délégation n'est pas satisfaisant, qu'ils ne sont pas suffisamment entendus, ce qui n'était probablement pas le cas des mêmes gens, mutatis mutandis, il y a 50 ou 100 ans. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, moi, pardonnez-moi, mais je n'ai pas d'idée tellement alternative à la démocratie représentative. Alors, certes, si on est en Suisse, on peut imaginer les votations tous les week-ends, mais ça ne marche pas pour un grand pays, ça ne marche pas pour un pays méditerranéen, ça ne marche pas pour un pays composite comme le nôtre. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles, parfois, on aperçoit les limites du système dans lequel on vit. Et pour autant, il faut bien admettre qu'on n'a pas de solution à proposer. Je ne me sens pas tellement honteux de ne pas avoir trouvé le successeur à la démocratie représentative. Et je serais très heureux que quelqu'un me l'apportât et que ça marche bien après. Mais on n'en est pas là.
Alors, parmi les questions qui n'ont pas forcément trouvé de réponse, je voulais vous faire écouter celle que pose Dominique Rousseau, le professeur de droit constitutionnel. C'était dans l'émission de lundi. Peut-on se passer des élites ?
Je ne suis pas contre les élites. En revanche, je trouve que notre pays, la France, a un problème dans la mesure où les élites sont, excusez-moi, un peu monoformatées. Et notamment formatées par l'ENA. Donc, il y a une pensée d'État construite, fabriquée par l'ENA, qui se diffuse dans la société. Et la question que je pose, c'est que cette pensée d'État était peut-être nécessaire au début du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société n'a pas besoin d'être libérée de cette pensée d'État pour laisser la société civile prendre davantage de place dans l'organisation des rapports sociaux ?
Une pensée d'État qui étouffe, qui monopolise le débat, qui s'impose comme seule vision de la société. La question que pose Dominique Rousseau. Anastasia Colosimo.
Je pense que la première chose qu'on peut répondre à ça, c'est que Philippot, qui est au Front National, est un énarque. Donc je pense que si on veut penser librement, on peut penser librement à peu près partout. Donc je ne suis vraiment pas convaincue qu'il y a un problème. Je suis assez attachée à la manière dont en France on continue à faire des concours qui sont des concours anonymes qui permettent d'accéder à un tas de personnes qui ne viennent pas de familles qui n'ont pas été nourries à l'élite, justement, qui n'aiment pas des familles qui font partie de l'élite, qui leur permettent d'accéder au plus haut rang de l'État. Que ça soit formaté, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on leur apprend les bases de l'État, on leur apprend le droit, on leur apprend le fonctionnement, les institutions. Je ne suis pas convaincue par tous ces arguments.
Philippe Manière.
Alors, il y a à prendre et à laisser dans ces arguments. Alors d'abord, je suis d'accord avec Anastasia sur le fait que c'est très bien qu'il y ait des concours anonymes et que tout le monde puisse accéder. C'est vrai, sauf que ça marche beaucoup moins bien qu'avant. C'est-à-dire quand même, quand on regarde aujourd'hui, la proportion de diplômés de ces écoles-là qui vient des milieux dits bourgeois au sens large n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, oui, il y a des gens qui réussissent les concours bien que n'étant pas issus de la bourgeoisie, mais ils sont devenus tellement minoritaires que l'argument devient difficile à plaider.
Alors je suis complètement d'accord, mais je dirais que le problème là, c'est le problème de l'école.
Oui, non, j'en suis
et
d'accord.
Je pense que le
de l'école et de la société, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas assez vu, c'est par exemple la prégnance de la télévision en fonction de la CSP. Il y a des tas de familles où la télévision est branchée du matin au soir, où il est absolument impossible de se concentrer. Et franchement, enfin, pour ceux d'entre nous qui ont fait des études, je ne comprends pas du tout comment on peut imaginer que quelqu'un puisse réussir avec une télévision qui, naturellement, est rarement branchée sur Arte et qui joue du matin au soir. En revanche, dans certaines familles bourgeoises, la télévision est quelque chose dont on a un usage très limité et très sélectif. Évidemment, ça imprègne fortement les capacités de l'enfant à capacité égale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir la télévision, de toute façon, ça n'a aucun sens. Ce que je veux dire, c'est que les évolutions sociales et techniques, l'habitus, pour parler cuistre, a tellement divergé au sein des familles au fil des dernières décennies qu'il me semble qu'on a la conséquence de tout ça quand on regarde les résultats des concours. Mais je voudrais quand même continuer sur l'ENA, parce que moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on forme très bien les serviteurs de l'État. Et d'ailleurs, moi, presque tous les énarques que je connais, et ils sont nombreux, sont des gens remarquables, intellectuellement évidemment, et même généralement moralement. Le problème, c'est effectivement qu'ensuite, beaucoup vont passer dans l'entreprise, et que le fait qu'ils passent dans l'entreprise n'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est que les postes d'élite dans les entreprises échoua toujours à des gens, ou presque, à des gens qui ont fait ces deux ou trois formations. On a parlé de l'ENA, on pourrait parler de Polytechnique, même certains qui ont fait les deux, c'est admirable, et ils sont encore plus déterminés à diriger une entreprise un jour. Ça n'est pas mal en soi, sauf qu'il y a deux conséquences. Un, il y a une culture unique à la tête des entreprises, et deux, cette culture est par définition détachée de celle des autres salariés. Quand vous regardez par exemple en Allemagne ou en Suisse, bien sûr, vous avez des gens qui sont représentants des élites à la tête des entreprises, mais ils peuvent être chercheurs, certains ont commencé tout en bas de l'échelle. C'est quelque chose qu'on ne voit presque pas chez nous.
C'est précisément ce que dénonçait Dominique Rousseau dans cette intervention qu'on a pris, effectivement, de dire il y a le problème, c'est pas qu'il existe des élites, en tout cas, c'était son point de vue, c'était l'idée qu'il y avait une pensée unique, on va dire, enfin, une homogénéisation, on va dire, de la formation et du coup de la pensée de ces élites. Guillaume
Moi, je pense pas que le problème se limite à l'ENA. Peut-être Dominique Rousseau en parlait d'autant plus volontiers qu'il avait en face de lui la directrice de l'ENA ce jour-là, mais il y a d'autres. La société française est pétrie de grands corps et qui sont multiples et de grandes écoles, et que c'est autant d'esprits de corps qui sont assez puissants. Et moi, je ne sais pas s'il faut parler de formatage, de conformisme, etc. Mais je veux dire, il faut surtout pas limiter le problème à l'ENA. Je veux dire, ça vaut autant pour la façon dont les gens d'HEC conçoivent la conduite des affaires.
Hein. Alors, d'autant qu'on ne va pas rester sur les grandes écoles dans cette émission, parmi les autres corps, on va dire, au sens large auquel on s'est intéressé, il y a évidemment les médias, et je voulais vous faire écouter l'explication apportée par Jean-Marc Four à l'accusation faite aux médias de passer des fois à côté d'une certaine réalité.
Ces lacunes ou ces déficits ne s'expliquent pas exclusivement par les conditions économiques de production. Je pense qu'elles sont liées aussi à des paramètres plus sociologiques sur le profil socioculturel, le capital socioculturel, si vous voulez, des journalistes. Prenons un exemple de l'actualité récente. Je pense qu'il y a eu, peut-être ça va être corrigé, mais un déficit de captation de cet électorat Fillon, en tout cas dans sa frange de France de droite, classique, conservatrice, catholique, etc. Je pense qu'on a insuffisamment de capteurs de ça, et que c'est lié pour partie au profil socioculturel des journalistes.
Ouais, donc c'était Jean-Marc Four, je n'ai pas précisé qu'il était directeur de la rédaction de France Inter, et ça c'était dans l'émission de mardi. Et Guillaume Goubert, est-ce qu'il faut, pour être un bon journaliste, être en partie issu des milieux sociaux sur lesquels on va enquêter ?
Ah oui, je vais... oui et non. Oui et non, je pense que ça peut être aussi une source de biais que d'être issu en adhésion ou en rejet d'ailleurs, hein, dans les deux sens. Je pense pas qu'il y ait de loi générale. En revanche, que la formation des journalistes, là encore, je me répète, mais elle soit très formatée, ça c'est vrai. Je veux dire, on est beaucoup d'entre nous sommes issus du même moule intellectuel. Alors beaucoup c'est Sciences Po Paris, mais d'autres formations se sont un peu calées sur ce modèle-là, qui a au demeurant de grande qualité. Cela dit, Jean-Marc Four a raison. Je veux dire, c'est vrai que ce monde de l'électorat de François Fillon n'est pas très très bien connu de la plupart des journalistes. C'est vrai.
Anastasia Colosimo, sur le moule Sciences Po, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous y enseignez?
Alors avant de parler du moule Sciences Po, je voulais revenir sur cette question des journalistes. Je pense qu'il y a un vrai problème, et c'est intéressant de parler des électeurs de Fillon à ce titre. La presse, c'est une presse d'opinion. C'est-à-dire, on sait que Le Figaro est un journal de droite, par exemple. On sait que Libération est un journal de gauche.
Et La Croix?
La Croix, c'est un journal catholique. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on sait donc qu'il y a un biais idéologique. Normalement, quand on ouvre un journal, on sait à peu près ce qu'il va nous dire sur... Voilà, sur ce qu'il y a... On voit, quoi. Je pense que le problème, c'est... Alors, d'une part, le fait que de plus en plus, on a eu l'impression qu'on effaçait le biais idéologique et qu'on était juste dans la description objective et qu'on a fait passer beaucoup de descriptions pour objectives alors qu'en fait, il y avait toujours un biais idéologique. Je trouve qu'à la télé, par exemple, c'est assez sensible. Et quand je vous dis ça, c'est pour le rattacher justement à la déconnexion. Si on a 30% d'électeurs du Front National en France, on va le voir, mais bon, c'est ce que nous disent les sondages. Pourquoi est-ce que à la télé on continue à traiter le Front National à chaque fois qu'on les interroge comme des parias totaux? C'est-à-dire comment on peut espérer qu'en les traitant comme des parias totaux en annonçant que c'est parfaitement objectif et que c'est juste là la vérité mais qu'il n'y a pas du tout de biais idéologique, comment on peut espérer que ces gens-là ne soient pas en colère? Donc moi c'est un peu ça ma question, c'est-à-dire on ne peut pas complètement... Voilà, s'imposer comme une vérité, alors que derrière, bon...
Philippe Manière.
Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Anastasia. Vous faisiez allusion gentiment tout à l'heure à ce livre que j'avais écrit après la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le deuxième tour. Moi, j'insistais beaucoup sur le fait que, évidemment, à ne pas vouloir parler avec le Front National, à lui faire un sort particulier, on alimentait l'un de ses ressorts fondamentaux du vote Front National, qui est la paranoïa. Au bout d'un moment, les gens sont même plus paranoïaques, ils ont des raisons de penser qu'ils sont maltraités, puisqu'effectivement, on les maltraite au seul motif qu'ils pensent comme ça. Donc, bon, ça, c'est un point. Pour revenir sur ce qu'on disait sur la rédaction d'un journal et comment elle peut connaître ses objets d'étude. Moi, je ne crois pas qu'il faille être électeur de Fillon pour comprendre le vote Fillon. Je pense même que ça pose un problème épistémologique éternel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans l'expérience et la décrire convenablement. Donc, la question n'est pas de savoir si on a suffisamment de gens pour comprendre de l'intérieur telle ou telle tribu. La question est de savoir si on a suffisamment de gens qui représente un nombre suffisant de tribus. Et c'est vrai, là, je crois, c'est une évidence en France. Pas seulement en France, le New York Times est relativement endogame, Fox News, c'est rien de le dire. Oui. Mais enfin, il est vrai que dans le New York Times, on peut avoir le même jour Paul Krugman et David Brooks. On peut avoir des gens qui parlent de deux points de vue différents. Mais dans les rédactions françaises, de tous les grands journaux, ou presque, moi j'ai eu la chance de bosser dans un journal qui, je crois, faisait un peu exception, Le Point, qui était clairement de centre-droit, mais où il y avait des éditorialistes de gauche, et dans la population des journalistes, des gens de gauche, des gens qui venaient de milieux populaires, mais dans la plupart des journaux...
On ne parle pas droite-gauche, là, ce qui était en question, c'était plutôt le profil socio-économique.
Je parle de la diversité des déterminismes. Donc il y a des gens qui sont de droite, des gens qui sont de gauche, des gens qui viennent de milieux populaires, des gens qui viennent de milieux plus bourgeois, et c'est ça qui compte. Et je pense qu'un directeur de la rédaction devrait s'imposer, non pas des quotas, mais dans ses recrutements, de viser à une forme de diversité qui permet de comprendre le monde. Non pas parce que chacun comprend sa tribu, mais parce que c'est mieux qu'on ait des gens qui comprennent un peu chacune des tribus, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Alors, je finis sur un autre point, c'est que malheureusement, tout ce que je viens de dire, que je n'aurais pas dit si je le trouvais à peu près pertinent, n'a dans le fond, pas vraiment d'intérêt, parce qu'il faut tout de même se rendre à la raison, les journalistes ne comptent pratiquement plus dans la formation de l'opinion. C'est-à-dire qu'il faut faire les meilleurs journaux possibles, et pour ce faire, il faut si possible avoir les rédactions les plus variées et les mieux formées possibles, mais quand vous regardez ce qui fait que les gens ont telle ou telle opinion, les journaux dont on est en train de parler, mais c'est devenu tout petit. C'est la télé, c'est l'Internet qui font que les gens croient savoir ce qui est vrai,
Et l'Internet est encore pire que la télévision, si je puis dire, sur ce critère, parce qu'il a des tas de qualités par ailleurs, puisque c'est très trompeur. Le fil Twitter que vous croyez avoir comme ouverture sur le monde, ou votre tribu Facebook, ce sont des gens qui sont les mêmes que vous, pour l'essentiel. Très peu de gens s'efforcent à suivre, par exemple sur Twitter, des gens qui ne pensent pas comme eux. Et donc chacun a le sentiment de savoir ce qui se passe dans le monde, alors que chacun, en fait, ne sait que ce qui se passe parmi les gens qui pensent comme lui. Donc c'est très producteur de malentendus et de ressentiments.
Et de hier, peut-être, et puisqu'on est en compagnie d'un directeur de journal ce soir, Guillaume Goubert de La Croix. Donc précisément sur ces questions, est-ce que vous faites, c'est une préoccupation de se dire, dans ma rédaction, est-ce que j'ai des gens qui sont issus d'une diversité sociale suffisante? Et est-ce que vous vous posez aussi cette question de comment on va organiser nos capteurs pour ne pas tomber dans les biais que décrivait Philippe Manière, de ne voir la réalité qu'à l'aune de ce qu'on connaît dans sa petite vie?
C'est une préoccupation qui a augmenté ces dernières années. Elle a été à une époque on a embauché beaucoup de l'histoire de La Croix éventuellement est un petit peu particulière, mais c'est un journal qui a été fait autrefois par des non professionnels ou des personnes peu professionnelles et qui venaient des mouvements d'action catholique, etc. Et ensuite, il y a eu une volonté de professionnaliser la rédaction et ça a amené à embaucher beaucoup de personnes qui sortaient du modèle Sciences Po, pour faire simple. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, il y a au journal le souci de diversifier les profils et d'avoir plus de diversité dans la rédaction. Mais évidemment, c'est pas des choses qui évoluent très vite, compte tenu de ce qu'est le marché du travail en ce moment dans le métier qui est le mien.
Et puis il faut aussi signaler une toute petite chose, c'est que malgré tout, il faut des journalistes variés, mais il faut quand même des journalistes compétents. Or, il faut bien reconnaître que les formations d'élite dont on dénonce ensemble le caractère endogame, enfin en tout cas le résultat d'endogamique qu'elles peuvent avoir au niveau des entreprises et des rédactions, elles ont quand même un intérêt. C'est que quelqu'un qui a fait Sciences Po, ou qui a fait d'ailleurs d'autres écoles, sait à peu près écrire, sait raisonner, et a une capacité à décrypter, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui est généralement, statistiquement, supérieure à celle de quelqu'un qui a fait des études alternatives complètement différentes, ou a fortiori qui n'a pas fait d'études. Donc c'est compliqué à gérer, évidemment.
Alors... Je précise qu'il y avait aussi les écoles de journalisme. Enfin, il y a aussi les écoles de journalisme, mais chez nous, c'était beaucoup le CFJ et le ESJ, par exemple. Mais c'était un peu trop centré.
La question de la diversité sociale dont on parle dans le journalisme, il se trouve qu'elle a eu un écho très fort également dans l'émission qu'on a consacrée aux corps intermédiaires, donc là, plutôt les syndicats, les associations, les partis, avec ce double constat, à la fois des structures qui se professionnalisent et puis qui se coupent des classes populaires. Je voulais vous proposer d'écouter l'analyse de Pascal Aubert, qui était notre invité, et lui, il est cofondateur du collectif Pouvoir d'agir.
Quand on technicise les questions, les militants, ils ont de moins en moins leur place, ils sont de plus en plus relégués à des masses de manœuvres qui deviennent, pour le coup, de moins en moins massives. Il y a une espèce de spirale là, qui renforce ce phénomène-là. Ça a une deuxième caractéristique, c'est quand on recrute des gens sur leurs compétences universitaires, sur leurs compétences techniques, forcément, on fait monter le niveau sociologique de recrutement. Quand les partis, les syndicats et les associations ne recrutent plus que sur des bases techniques, il y a un éloignement sociologique qui se fait progressivement, et moi je l'ai vu sur 30 ans, entre les dirigeants de ces organisations-là et leur supposée base.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qu'aujourd'hui, les classes populaires sont privées, on va dire, des moyens d'action qui étaient peut-être plus habituels pour elles dans les années 70, à savoir justement les partis, les syndicats qui aujourd'hui vont piocher dans un vivier de militants et puis de gestionnaires quelque part, de gens qui vont être diplômés, Bac+3, Bac+5.
Alors, sur la question des associations, je trouve que c'est extrêmement intéressant, le point de vue qui vient d'être développé et me paraît assez juste pour ce qui est des grandes associations. C'est-à-dire que les grandes associations se sont énormément professionnalisées avec les avantages que Philippe décrivait tout à l'heure pour les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a dans les associations des personnes très compétentes qui sont capables et qui sont très soucieuses des causes qu'elles ont à traiter. Je veux dire, dans les associations de réfugiés, il y a d'excellents juristes, mais qui vont aussi à la rencontre des réfugiés à Calais, à la Grande-Synthe, etc. Donc il faut pas être. Mais c'est vrai que ça vient d'en haut, ça descend. En revanche, je pense que ce point de vue n'est pas juste pour les petites associations qui sont extrêmement, qui sont quand même extrêmement actives, mais qui, c'est vrai, n'ont pas une force d'influence très importante au niveau national, mais au niveau local, ça peut quand même avoir de l'importance. Où là, il y a vraiment encore des militants.
Anastasia Colosimo, une lutte des classes qui ne dirait pas son nom.
Oui, alors en plus, moi, je l'ai écouté l'émission et on a parlé à un moment de quelque chose qui me semble très très important. Ce qui a été évoqué, c'est la disparition de l'Église et du Parti communiste. Je pense que c'est fondamental.
On regrette donc Camilo finalement.
Oui, c'est ça. Comment ?
On regrette donc Camilo.
Ouais, et Pépone.
Non, mais je pense que...
C'est ce que je voulais dire.
Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que le tissu associatif, enfin justement les corps intermédiaires, c'était aussi en France historiquement, d'une part l'Église et d'autre part le Parti communiste qui en plus tous les deux, à leur manière, prenaient un vrai système de solidarité. Et à partir du moment où l'Église s'est rétractée et que le Parti communiste a quasiment disparu, il y a eu un espace qui a été laissé et qui est un espace énorme et qui est une béance en fait. Moi je l'ai vu, j'ai fait un stage dans le 93 en Seine-Saint-Denis, tout ce qui se disait c'était il n'y a plus de tissu associatif. Mais il n'y a plus de tissu associatif parce que pour qu'il y ait un bon tissu associatif, il faut aussi de l'expérience, il faut aussi en fait des grandes structures, des hyperstructures, à savoir le Parti communiste ou l'Église, qui ordonnent tout ça aussi, qui donnent du sens à tout ça, qui l'organisent et qui font grandir les enfants aussi dans l'envie de s'associer, dans l'envie aussi d'être dans une certaine solidarité. Donc je pense que là, historiquement, on est effectivement dans un moment historique complexe.
Mais ce qui était dit aussi dans le cours de cette émission, c'était qu'il y avait dans les années 70, des milliers de personnes qui passaient un moment dans leur vie par une expérience du collectif. Donc, et à la fois un lieu où on pouvait débattre d'idées contradictoires, on pouvait se former, on pouvait être intégré. Et puis voilà, surtout cette idée d'une expérience collective. Et Philippe Manière, est-ce qu'aujourd'hui, le problème, il est que le nombre de personnes qui passent par cette expérience a considérablement diminué?
Tout a changé, parce que là, j'ai un petit point de désaccord avec Anastasia, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'associations dans les quartiers, il y en a bien plus qu'avant. Mais ce sont des associations qui vivent presque exclusivement de subsides publics et qui ne sont pas portées par l'élan messianique qui portait et l'Église catholique et le Parti communiste. Et donc on est là aussi dans une espèce de technocratisation de l'association qui est présente, qui est plutôt riche, enfin tout est relatif parce qu'évidemment tout le monde manque toujours d'argent, mais les subsides publics qui vont aux associations sont considérables. Simplement ça n'a pas du tout le même effet sur le terrain que quand il y avait des gens qui effectivement venaient du terrain et se levaient au nom de leurs frères, que ce soit leurs camarades ou leurs frères, puisqu'on parle de Pépone et de Don Camillo, portés donc par une espèce de vision messianique d'un progrès de lendemain qui chanterait. Moi, je crois beaucoup aussi qu'il y avait dans cette époque-là quelque chose dont on a un peu perdu la mémoire, qui était une forme de méritocratie, de sélection alternative par rapport aux voies royales, typiquement à la française, ou aux autres modes de sélection des élites. Vous aviez des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études, mais qui, par la voie du syndicat, ou d'ailleurs par la voie de l'Église, on a eu des élus, par exemple, qui étaient des élus religieux, qui étaient très remarquables, avaient une formation intellectuelle sur le tas, dans le fond, hein, et qui les amenait assez loin. Moi, je connais bien, par exemple, quelqu'un qui a été l'un des très proches de Nicole Notat, on avait même parlé de lui pour lui succéder, c'est quelqu'un qui a commencé en Alsace, dans une usine chimique, à Chalampé, à 16 ans, après avoir une formation technique très limitée, mais il s'est mis à lire dans sa chambre de bonne, il a adhéré à la CFDT, il a fait tout le parcours, et à l'arrivée, c'est un homme remarquable, alors qu'il n'a pas fait d'études, c'est un homme remarquable intellectuellement et humainement, parce qu'il a eu cette espèce de voie alternative. Et ça, aujourd'hui, parce que les syndicats, les associations, etc., sont technicisés, comme on vient de le dire, ça n'existe plus beaucoup.
Alors, pour nuancer un tout petit peu l'idée qu'il n'existe plus beaucoup, je voulais vous faire entendre un dernier témoignage, celui de Rina Rajaonari. Elle est présidente de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, qui est une structure historique de l'éducation populaire.
Non, ce n'est pas les corps intermédiaires qui ont déserté les quartiers populaires. Je pense qu'on est encore plusieurs à y agir. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un vrai lieu de débat, un vrai lieu de libération de parole des personnes qui sont dans ces quartiers-là. Et c'est ça qui manque. Donc effectivement, à la JOC, on développe des groupes de jeunes, ce qu'on appelle des équipes de révision de vie. En fait, on permet à chacun justement de venir avec ce qu'il est, dire un petit peu ce qu'il vit et de dénoncer un peu les choses avant de faire des propositions. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Par contre, il y a aussi le manque de confiance auprès de ces personnes des quartiers populaires. Aujourd'hui, on ne leur dit pas assez qu'ils sont capables de porter des vraies propositions. Donc pour cela, je pense qu'il faut développer les outils qui permettent d'informer en tout cas, qui permettent aussi de poser justement ces indignations et enfin d'agir.
Anastasia Colosimo, vous voulez réagir?
Oui, je voulais juste dire que tout ça, c'est, enfin, ce tissu, il est important, ce tissu social, parce que c'est l'endroit où se passe la transmission. C'est-à-dire que c'est très bien de faire parler les jeunes, c'est très bien qu'ils puissent s'exprimer, tout ça est très bien. Ce qui est important quand on parle de tissu associatif, c'est que c'est un moment de transmission, pas que des vieux aux jeunes, aussi des jeunes aux vieux, aussi des vieux aux vieux. C'est un endroit aussi, on ne vient pas pour s'exprimer, mais on vient aussi pour apprendre. Et tous ces endroits-là sont des endroits de solidarité parce qu'on y apprend aussi des autres, on apprend à vivre avec les autres.
Guillaume Goubert.
Juste un mot, c'est de dire que l'actuel patron de la CFDT est un ancien de la JOC. Donc, je veux dire, il faut voir aussi justement ce que c'est Laurent Berger. Il faut voir aussi ce que ces mouvements aussi ont promu au sein de la société française au fil du temps et quelles que soient les identités politiques,
mais
religieuses,
le
etc.
Encore,
etc.
C'est la question. Bah,
c'est plus difficile, mais il y a des choses, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est qu'il y a des choses aussi qui vivent et qui renaissent. Je veux dire, actuellement, vous avez une renaissance du scoutisme, par exemple, en France, qui est assez spectaculaire. Alors, ça concerne d'abord les beaux quartiers, mais pas que les beaux quartiers. Je veux dire, il y a du scoutisme musulman, il y a du scoutisme juif, et les différentes familles du scoutisme se rencontrent et font des choses ensemble. Ça se voit pas beaucoup, ça fait pas de bruit dans les médias, mais je peux vous dire que ça existe.
Philippe Manière.
Non, moi je pense que tout ça existe, que c'est un travail formidable qui est fait, mais je pense que par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, alors faut pas non plus enjoliver trop le passé, hein, Pépin et Don Camillo, c'est pas non plus le paradis, ni terrestre, ni céleste, mais il y avait tout de même quelque chose que je crois on a perdu dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que je crois qu'il y avait effectivement, comme le disait Anastasia tout à l'heure, de la tradition au sens étymologique, de la transmission. Il y avait autre chose que de l'écoute, de la psychologie et de l'aide sociale. J'ai l'impression que ces mouvements-là, et évidemment, c'est tout à fait utile qu'ils le fassent, mais sont principalement centrés là-dessus, là où avant... Tout simplement parce qu'il y avait le messianisme derrière et puis qu'il y avait quand même l'héritage qui est un peu en voie de disparition, très vivant encore, du raisonnement au service
surtout,
d'une cause.
C'était l'effort, parce que même le scoutisme, c'est, ça, il y avait l'effort. C'est bon. Retrouvez-vous seul dans une
là,
forêt,
j'ai l'impression,
faites du feu avec
c'est ça.
Du bois.
J'ai l'impression que ces associations...
C'est un culte de l'effort.
Exactement, ces associations qui rendent un service absolument insigne, hein, il ne s'agit pas de les critiquer, mais elles sont, parce que c'est l'air du temps aussi qui les détermine à l'être, plus des lignes d'écoute, des SOS... que des formateurs ou des moyens d'accéder à l'élite par une voie alternative.
Exemple, comment est-ce que vous expliqueriez que cette fonction de formation ait disparu, Guillaume Goubert?
Mais elle a pas disparu, elle s'est affaiblie. Et je trouve que Philippe, par exemple, sur la JOC, dit quelque chose qui est caricatural. La JOC, par exemple, a fait depuis des années un travail pour la défense des travailleurs saisonniers tout à fait remarquable. Et ils ont été les seuls à porter cette question-là, qui est une vraie question. Donc je suis pas si pessimiste que ça. Je pense qu'il est vrai que dans une société qui a, enfin, disons, un modèle social qui a énormément encouragé l'individualisme et la réussite individuelle, c'est vrai que ce qui proposait de l'action collective a pas eu autant de succès que par le passé. C'est vrai que les corps qui portaient cette chose-là, on parlait de l'Église, du Parti communiste, mais heureusement, il y en a eu encore d'autres, se sont affaiblis. Mais je veux dire, il faut travailler à le faire renaître. À mon avis, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de renaître à la base. Et je suis toujours étonné de voir, quand on voit le fourmillement d'initiatives qu'il y a en France, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, plein de choses, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas aujourd'hui à percoler davantage à l'échelon, disons, où se prennent les décisions politiques?
Quelqu'un a une réponse à la question que pose Guillaume Goubert?
Il n'y a pas d'articulation institutionnelle entre l'économie sociale et solidaire et les représentants. Je pense que c'est très technique, la réponse. Mais on voit déjà dans les médias ces sujets-là beaucoup progresser quand même
au fil
des dernières années.
Moi, je pense qu'elle n'est pas que technique. J'avais été frappé de discuter avec un grand responsable d'association qui m'avait dit « Dans ma génération, on a cessé de croire à la politique et on s'est investi dans les sujets associatifs et on a fait des choses formidables, très professionnelles, etc. » Puis un jour, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'obtenir un aménagement d'un projet de loi ou de porter un texte, etc. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas à qui parler de ça parce que nous n'avions plus de les nôtres n'étaient plus présents dans le monde politique. Et c'est une des choses à recréer actuellement.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion qui avait donc pour ambition de faire un petit peu la synthèse d'une semaine spéciale du grain à moudre. Donc, je rappelle, toute cette semaine du lundi au vendredi, nous avons essayé de poser la question, mais pourquoi ne voit-on plus rien venir? Nous avons créé une série spéciale sur notre site internet que je vous encourage à réécouter. Donc, merci beaucoup Philippe Manière, donc je rappelle, directeur du cabinet en conseil stratégie Footprint Consultant. Merci à vous Anastasia Colosimo, politique politologue et enseignante à Sciences Po Paris. Puis merci beaucoup à vous, Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, avec qui nous étions en partenariat toute cette semaine. La réécoute et le podcast, je l'ai dit, mais aussi les commentaires, c'est sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi nous suivre, bien sûr, sur notre fil Twitter. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Cyril Baer, Céline Leclerc et Isolde Sicard. Réalisation Francis, prise de son ce soir, Pascal Baudin. Lundi, c'est Hervé Gardette qui sera de retour au micro du Grain à Moudre avec cette question qui devrait vous intéresser. Y a-t-il une façon catholique de faire de la politique ? Dans quelques instants, on retrouve Ping Pong avec une émission spéciale ce soir enregistrée à Rennes au Festival des Transmusicales. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.